Alors, on continue ce matin avec l'étude sur Juges. On est rendu un peu au chapitre 6. Oui, on est rendu au chapitre 6. On fait une petite récapitulation vite, vite, parce qu'on sait qu'il y a un cycle de 5 étapes. Les Israélites abandonnent l'Éternel. Dieu envoie une nation, quelqu'un pour les oppresser. Mais là, ils crient à l'Éternel dans leur détresse. Et l'Éternel les délivre, il suscite un juge pour le délivrer. Et puis ça donne la paix. Et puis ça recommence encore. C'est bien malheureux, mais c'est tout ce qu'on voit tout à travers le livre de Juges. Aujourd'hui, on a déjà vu tous ces juges-là. La semaine passée et la semaine d'avant, on avait vu Déborah. Barak, ce n'est pas un juge, mais Déborah était à côté de Déborah pour la bataille contre les Canéens, les Canadiens Sisera en particulier. Aujourd'hui, on va voir Gédéon. Ça commence dans le chapitre 6, mais ça va se terminer juste seulement dans le chapitre 8. Fait qu'on va passer plusieurs semaines dans Gédéon en tant que tel, voir ses victoires, etc. Ce matin, on va aller voir ça. On va voir ça. Dans le chapitre 4, Dieu s'est servi de la fidélité de Déborah, on l'a vu de Jaël, pour réveiller la conscience de Barak et du peuple tout entier face à leurs responsabilités. L'ennemi, les Cananéens, a été battu grâce à l'intervention de Dieu. Mais les hommes et les femmes ont dû jouer leur rôle dans la bataille. Nous avons vu dans le chapitre 4 une description des combats, comme si c'était le cas d'un journaliste qui expliquait ce qui s'est passé dans la bataille. Mais dans le chapitre 5, on voit un côté plus poétique, avec un accent de reconnaissance. C'est une reprise de tout ce qui a été dit dans le chapitre 4. On a vu Barak et Déborah sont reconnaissants pour l'engagement des chefs, l'engagement du peuple et aussi l'engagement de toutes les tribus qui ont contribué à cette victoire-là. Aujourd'hui, nous allons lire les 24 premiers versets du chapitre 6 de Juges. C'est une histoire qui nous est vraiment familière. On connaît cette histoire-là, on l'a déjà lue, mais on va passer un peu de temps là-dedans pour approfondir. Alors, comment ça commence? Avec le cycle de rébellion, n'est-ce pas? Ils étaient en paix pendant 40 ans, mais là, les Israélites se détournent de Dieu, et puis, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Dieu va susciter quelqu'un pour les oppresser. Après 40 ans de paix, ils ont recommencé. Le titre, le verset 1 nous dit, les enfants d'Israël firent ce qui est mal, ce qui déplaît. Encore une fois, ça c'est un refrain, on voit dans tout le livre de Juges, là, qu'ils font ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Pendant 7 ans, les Madianites sont là. Et plus tard, on va voir que ce n'est pas juste les Madianites, n'est-ce pas? Qui étaient Madian, maintenant? Est-ce qu'on peut juste lire ce texte-là, juste pour confirmer? Genèse 1, 25, 1 et 2.
Abraham mit encore une femme nommée Ketura. Elle lui donna des fils Zimran, Okshan, Madian, Jac et Choua.
Elle a souligné la présence de Madian comme étant fils d'Abraham à travers Ketura, sa deuxième femme. Souvent, on oublie qu'Abraham avait une deuxième femme de Ketura. En tout cas, moi, j'oublie. On pense toujours à Ismaël, et puis sa servante, et puis Isaac, mais non. Ça nous rappelle encore qu'il avait une autre femme. Ils étaient parents assez proches, vous le voyez déjà. Hein? Les Madianites, parce que Abraham, le fils d'Abraham, puis on sait que plus tard, c'est l'autre fils d'Abraham, Isaac, en fait, le petit-fils d'Abraham, qui est Jacob, qui est devenu Israël. Puis c'est le peuple, c'est les descendants directs d'Israël. Fait qu'on voit, ils sont très, très proches des Israélites. Ils sont nés de la descendance d'Abraham à travers Ketura. D'ailleurs, on voit que ce rapprochement est encore très intéressant de voir que Moïse a épousé Séphora, qui est la fille de Jéthro. Jéthro ou Réhul, c'est la même personne, qui était prêtre à Madian, qui était apprenti à Madian, selon Exode 2, verset 21 et 3, 1. L'Éternel parla à Moïse et dit au sujet de Madian, traite les Madianites en ennemis et tue-les tous. J'ai déjà entendu des personnes dire, hey, mais le l'Ancien Testament, c'est un livre cruel, c'est un Dieu cruel, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu cruel, etc. Il commande toutes ces tueries-là. Qu'est-ce que vous pensez de cela, vous autres?
C'est sanguinaire.
Sanguinaire, sanguinaire. Mais est-ce que c'est le même Dieu de grâce qu'on a dans le Nouveau Testament?
Oui. Après, Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il est souverain.
OK.
Les pensées sont
toujours sûres. Mais comment est-ce qu'on voit un Dieu juste là-dedans, non? Notre Dieu est un Dieu juste. Comment est-ce qu'on voit?
Pour voir le contexte. Et si je me réfère au Dieu du Nouveau Testament, qui a parlé de l'enfer le plus souvent? C'est Jésus.
Ouais,
ouais. Vous voyez le grand jugement de la fin des temps dans l'Apocalypse?
C'est le même Dieu.
Mais le contexte, parce que à travers Balaam, il a encouragé les Madianites à aller
se prostituer, d'autres femmes, des orgies sexuelles avec les Moabites et tout ça, l'idolâtrie. Ils ont fait ça. Et Dieu leur reproche ça dans l'ombre. Dieu leur reproche directement ça. C'est à cause de ça qu'il dit qu'il va les tuer.
Dieu fait justice.
Fait justice.
À d'autres personnes qui appartiennent à un autre peuple, à se tourner vers Dieu. Il ne les a pas éliminés non plus, comme dans Jéricho.
Okay.
Mm-hmm. C'est une femme qui était de mauvaise vie, tout ça, mais qui s'est tournée vers Dieu, qui a été acceptée. Il y a aussi dans Ruth aussi la même chose. Alors Dieu ne veut pas, il extermine ceux qui sont contre lui, comme l'enfer va faire ceux qui n'acceptent pas Jésus, qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Mais eux autres, c'est le paradis, l'enfer. C'est la même chose aussi.
Je vais juste nous replacer dans le contexte là. Dieu promet à Abraham un pays, Canaan, ok, à sa descendance. Mais il le dit d'abord, là, déjà dans Genèse. Toutes ces nations-là, on l'a vu, on les a, les Amoréens, les Cananéens, c'est tout là, on l'avait vu dans la première leçon. Ces nations-là, là, vous allez vous les exterminer, sur un jugement, quand leur péché aura atteint son comble, c'est ce que le texte dit. Et puis là, c'est là qu'il est. Je veux dire que avec la victoire sur Jéricho, là, quand on commence à avancer sur la terre promise, tous ces territoires-là, ben, Dieu dit, ben, ces gens-là, tuez-les. Parce qu'ils vont vous pousser à adorer des idoles. Ils vont vous influencer au point que vous allez... On vous rappelle de Salomon. Prenons l'exemple de Salomon. Un gars comme Salomon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti des hôtels pour les attarder. C'est concubine. Quand Dieu le dit, là, dites, débarrassez-vous de ces gens-là. C'est par amour. Parce que ces gens-là vont vous faire mourir en enfer avec eux. C'est ça. Ne fais pas d'amitié. Ces amitiés-là, je ne veux pas que tu aies ces amitiés-là. Pour nous, c'est comme radical, mais si ce n'est pas eux qui meurent, c'est nous qui allons mourir. Ces enfants qui vont mourir dans l'enfer pour l'éternité. Alors, c'est le contexte où c'est quelque chose, c'est un affront direct pour le peuple de quand Dieu leur avait dit non, et ils continuent, ils se sont laissés influencer pour faire tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, aller vers d'autres dieux, et Dieu leur avait dit mot par mot, vous ne ferez pas ça, vous n'adorerez pas les idoles, les faux dieux, c'est des faux dieux. Je vous ai sorti de l'esclavage de l'Égypte. Il va énumérer toutes ces actions. Puis là, ils ne comprennent pas, ils vont adorer un veau d'or. Aaron fait un veau d'or, ils se mettent là à l'adorer. Alors que le Dieu qui les a délivrés, il lui tourne le dos.
Pas à cause tu l'as posé. C'est que les gens qui apposent, ils se font juges de Dieu et ils cherchent à se justifier en restant rebelles à Dieu. Plus que les gens sont intellectuels, je travaille avec des intellectuels, et ils sont là ces questions. Donc, chaque fois, au début, je suis gentil, puis à la fin, je fonce dans le tas. juste là, puis regarde, tu t'en vas périr à cause que tu te crois juste.
Ouais. Ouais. Mais la question que je vous pose, là, c'est la réflexion de mon ancien patron. Ouais. Ton Dieu de l'Ancien Testament, là, c'est un sanguinaire, là. C'est comme ça qu'il le voyait, quand il lit toutes les histoires, mais sans comprendre. Voilà, c'est une excuse.
Si tu le regardes froidement, si tu regardes, tu exprimes aux yeux du monde,
oui. Oui. Mais je pense que le monde aussi, là, s'il lise tout le texte, le contexte, il va comprendre, parce que Dieu ne veut pas dire le tuer les sans exprimer le contexte. Et si tu vois le verset premier, à partir du verset premier de Juges 25, là, il le dit clairement. Ne faites pas ça, vous avez fait ça. Plus tard, il va dire le tuer, et puis effectivement, là. Mais il dit non, ne faites pas ça. Et puis la conséquence est grave. Et c'est ce que les juges, à l'époque des juges, c'est ce qu'on vit encore, à l'époque des juges. Ceux qui périssent. C'est ça, ils sont voilés. Ça. On a discuté de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont entraîné Israël dans l'immoralité sexuelle, dans Juges 25 et dans l'idolâtrie, alors que Dieu a défendu justement ça. Et dans le texte qu'on a lu ce matin, Joël nous a lu, ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. Ils ont cru écouter. Les liens de sang entre Israël et les Madianites sont plus proches encore qu'avec les Cananéens, qui sont des descendants de Cam, fils de Noé. Noé, dans Genèse, on l'avait vu. Les Madianites se font aider par les fils de Amalek, qui sont eux aussi des descendants d'Abraham. À travers Ésaü. Ils sont proches, mais ils ont une haine ardente l'un contre l'autre. Le texte qui nous rappelle ça, c'est dans Genèse 36, 12, et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Alors, Timna a enfanté à Éliphaz Amalek. Alors, ce sont là les enfants de Ada était la femme, et puis Tima était la concubine, mais la femme d'Ésaü. Okay? Voilà. On voit le lien entre Amalek et puis les Madians qui vont se mettre ensemble. C'est ces deux-là, ils vont faire appel, les Madianites vont faire appel à aux Amalécites pour aller ravager comme on l'a vu dans le texte ce matin. Amalek est un ennemi historique même. Du peuple Israël. Lisons Deutéronome 25, 17 à 19. Souviens-toi, en parlant d'Amalek, on parle d'un ennemi historique, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Il parle aux enfants d'Israël. Comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derrière, pendant que tu étais là, épuisé toi-même, lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entouraient, t'accorda le repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en postérité. Et tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Ne l'oublie point. Okay. Amalek était comme... C'est Amalek qui les a attaqués. Quand ils sont sortis, ils sont là, ils n'ont pas de force, ils n'ont pas d'armée, ils reviennent de l'esclavage. Puis, dans le désert, les Amalécites les ont attaqués. Puis Dieu dit, ben, c'est une vengeance. C'est une vengeance de l'Éternel contre les Amalécites qui avaient attaqué son peuple. Et Dieu leur dit, ben, tu vas détruire ce peuple-là aussi. Fait que ces ennemis-là, ça fait longtemps que c'est une épine dans leur chair. Et puis, ils n'ont pas changé d'avis.
Avec Madian et Amalek, à comparer des autres nations mm-hmm. qu'Israël devait détruire, mm-hmm. c'est qu'eux, ils ont couru à leur perte en voulant attaquer Israël parce qu'ils n'étaient pas dans la liste de ceux qui devaient être exterminés.
Mm-hmm.
Donc, c'est comme spécial, c'est qu'ils ont vraiment couru pour être les ennemis de Dieu,
sans
raison.
Ouais, ouais.
Est-ce
qu'Amalek,
c'était une race de
Julien? Non. Je pense pas.
Je sais qu'il y avait plusieurs nombres de Julien.
Okay. Non. tout ce qu'on voit dans ce texte-là, c'est vraiment c'est son lien. Je vais juste mettre en évidence son lien avec le peuple Israël. Le peuple Israël, un descendant d'Isaac, de Jacob, et puis l'autre, c'est descendant de Ésaü, le frère de Jacob. Okay. Donc, au temps de Juges, où nous sommes maintenant, les deux oppresseurs qui vont attaquer le peuple de Dieu, ce sont les Amalécites et puis les Madianites. Ce sont les oppresseurs des deux. Et c'était dans le plan de Dieu. Voici le texte nous dit. Dieu les a livrés. C'est l'Éternel qui les a livrés. Parce que c'est un jugement contre son peuple qu'il a abandonné. Amalek a aussi combattu dans le chapitre 3, verset 13, avec les Moabites sous Éhud, quand il était devenu de susciter, Dieu l'a suscité pour être le libérateur. Fait que c'est pas la première attaque des Amalécites. C'est vraiment un ennemi juré des Israélites. Ces oppresseurs viennent chaque année, pendant 7 ans. On ne sait pas s'ils sont en permanence, mais d'après ce qu'on peut comprendre dans le texte, c'est comme s'ils reviennent à l'époque des cultures. Ouais. Ils vont tout piller. Alors c'est une gang peut-être de paresseux qui dit, bon, voilà, ils vont travailler, nous on va récolter. Ils sont en train de relaxer et puis ils s'amusent. Imaginez tout le labeur qui est investi dans ces champs-là. Puis ils attendent le bon moment là, et puis ils vont tout ravager, même les bœufs, les animaux, ils vont tout emporter. Ils vont tout emporter. Et ceci pendant 7 ans consécutifs. Et le texte nous dit, et Israël fut très malheureux dans ma version, et dans la version Joël, c'est un synonyme qu'il y a, mais le texte nous dit vraiment, vraiment malheureux. Et jusqu'à date, pardon?
Appauvri,
oui, c'est ça. Et c'est vraiment une définition de leur situation qui est très forte. Et ils sont malheureux, ils sont appauvris. À cause, on comprend, c'est une crise économique, là, en soi. C'est une crise économique, en soi. Et un ravage économique, plein de plantations. On sait, ça, c'est le moteur de l'économie d'un pays. C'est l'agriculture, c'est ça? Puis l'élevage. Peu importe ce qu'on pense en Amérique du Nord, on ne le voit pas, mais c'est ça aussi. Mais c'est la base. En Afrique, en Haïti, on le sait, tout le monde le sait. Tu as un petit porc et puis un petit. Quelque chose. Un petit poule, quelque chose pour vivre, pour élever tes enfants et puis la culture. C'est de ça qu'on vit. Exactement dans ce cas-ci, ben, ils ont tout enlevé. Ils ont tout enlevé. Ils s'amusent à le faire. Alors c'est comme si on voit ça comme une ironie de la part de Dieu. Ils ont abandonné Dieu pour aller adorer les Baals, les Astartés, qui est Baal est vu comme étant le dieu de la prospérité, le dieu de l'agriculture. Puis Dieu les répond par une pénurie alimentaire. Ils ne peuvent même pas profiter de ce qu'ils ont planté là, à cause de leur désobéissance. Et c'est un thème que nous, les chrétiens, on devait chérir, l'obéissance quand Dieu, Nathan dit à David, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui, mon frère, vas-y.
Je pensais parce que c'est normal, je te discussion avec des amis qui sont athées, et leur inclusion c'est que un dieu ne peut pas permettre de toutes les maux de la terre. Et en fait, c'est que c'est très clair d'après la Bible, parce que on a désobéi.
Oui.
Mais il y a des gens qui vont penser que c'est pourquoi il y a des tremblements de terre. Mm-hmm. Et c'est ça. Adam et Ève a dit que si vous n'obéissez pas, il y a des épines sur la terre.
Oui.
Ça, c'est pas Dieu qui a fait ça. Comme par exemple, comme là, Dieu voulait juger les pays, mm-hmm. mais c'est mm-hmm. nous qui n'ont pas fait la décision.
Oui.
Dieu est souverain. J'accepte déjà, mais il y a notre responsabilité.
Ouais.
C'est ça qui nous fait pas un robot.
Une machine. Dans l'un des messages du feu, Marc Arthur, il disait que nous vivons sur une planète maudite.
Une planète maudite.
Nous vivons là-dessus, malheureusement, à cause de tous les péchés que nous avons commis. Nos parents l'ont fait, mais nous, on n'est pas mieux. On n'est pas mieux. Israël ne peut pas faire le lien à cause de leur endurcissement. Ils ne peuvent pas faire le lien entre leur détresse et puis leur infidélité envers Dieu. C'est ça le problème. C'est parce qu'ils sont infidèles à l'Éternel qui ont ces problèmes-là. Mais ils ne sont pas encore comprendre après quoi. Ça fait notre sixième juge, là. Et puis dans le sixième cycle, ils ne saisissent pas. Ils sont aveuglés. Ils ne peuvent pas comprendre que c'est à chaque fois Dieu leur dit, mais c'est à cause de votre désobéissance. Les juges se lèvent et disent, c'est ça. Mais ça, le mot ne se passe pas, je ne sais pas.
C'est un raisonnement très humain dans le sens qu'ils se disent qu'il y a un peuple qui nous afflige,
qui
sont forts.
Oui.
Et puis là, leur Dieu doit être fort.
Ouais.
Humainement, réfléchi, au lieu de par la foi. Il y a peu de foi là-dedans.
Tout.
Bon, eux autres, ils sont forts. Ouais. Probablement que leur Dieu, c'est le meilleur, il est fort. Fait qu'on va prendre leur Dieu. Ils se tournent vers Baal au lieu de se tourner vers le Dieu d'Israël.
Et pourtant, l'histoire qu'on a vue, là, les chars de guerre n'ont pas empêché que l'Israël ait des victoires. Là. les chars en fer, là, ça n'a pas empêché des victoires de la part d'Israël quand Israël se reprend, quand Israël se repent. C'est la foi en Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour chaque... Cette foi qu'on doit avoir en lui, là, intégralement, dans tous les domaines, qu'on puisse lui faire confiance à 100%. À 100%. Qui dit faire confiance dit obéissance aussi, n'est-ce pas? C'est ça. C'est une relation de cause à effet. Tu pêches, tu subis les conséquences. Il faut que ce soit l'Éternel lui-même qui intervient pour susciter un libérateur, car le peuple est aveugle. Il est dépourvu d'intelligence. Et c'est ce que Dieu a toujours fait dans l'histoire. Encore aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Nous, non, on ne voit pas. On ne voit pas. Et ça, comment il dit dans Romains, on cherche pas Dieu, je paraphrase, mais il est mort pour nous parce que quand on ne le cherchait même pas. Là,
je vous mets en parole, Dieu pour son amour, lorsque vous étiez...
Encore des péchés, Christ est mort pour nous, Christ est mort pour nous, oui, c'est ça. Une fois de plus dans l'histoire, c'est Dieu, ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu fait. Il intervient, il suscite un libérateur, et dans ce cas-ci, c'est Gédéon. Notre frère parlait de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, c'est le libérateur Jésus-Christ, le libérateur Jésus-Christ. En premier lieu, Dieu rappelle ses œuvres du passé à Israël. Avant tout, il le rappelle que je suis ton Dieu, voilà ce que j'ai fait. Il a parlé de sa fidélité, sa puissance, sa grâce. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. C'est-tu facile ça? Quand tu montes du pays d'Égypte avec Pharaon, là, après 400 ans, c'est pas tes forces là, qui vont te sortir de l'Égypte. Il leur rappelle cela. Et je vous ai sorti de la servitude. Il le rappelle. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui t'opprimaient. Je les ai chassés. Pas vous qui les avez chassés, moi. Je les ai chassés devant vous.
C'est là, ça montre l'importance quand on dit contre les bienfaits de Dieu.
Amen, amen, amen. Voilà, amen, amen. C'est ce qu'il a fait là. C'est ce qu'il a fait. Exactement. Un décompte de tout qu'il a fait. Oui. Puis, c'est pour nous aussi de se rappeler de sa bonté, de sa grâce, de sa puissance. Parce que s'il n'était pas un Dieu de grâce, il ne les aurait pas sortis de là. C'est parce qu'ils n'étaient pas des bons peuples, un peuple modèle. Sitôt sortis, ils se plaignaient, ils s'en plaignent. Sitôt sortis, ils se sont plaints dans le désert.
On veut retourner.
On n'a pas de viande. C'est ça. Oui, oui. Mais c'est sa grâce, c'est sa grâce. Et sa puissance, c'est... Et qui...
C'est même un petit miracle qu'il
fait
sur l'artiste.
C'est
la mer qui a...
Ouais, il n'y a rien là. Non, non. Les Égyptiens qui sont tous morts dans la mer, là, il n'y a rien... En tout cas, c'est bon de se rappeler de ça, que la Bible qui nous rappelait ça, nous, aujourd'hui, parce que des fois, on oublie que ce Dieu-là, le Dieu qu'on sert, comment il est puissant. On va voir dans l'Ancien Testament, dans la Bible, toutes les merveilles de Dieu, les miracles de Dieu, mais... Des fois, on oublie des merveilles qu'il accomplit dans notre jour, chaque jour dans nos vies, n'est-ce pas? de façon miraculeuse qu'il intervient. Dieu s'est révélé comme le grand libérateur du passé. Il a toujours été, depuis Adam et Ève, là. Ils ont péché, ils se sont cachés, ils sont venus les voir. Où êtes-vous? Ils sont tout le temps, c'est lui qui intervient. On va voir avec l'exemple, on va faire un rappel sur l'exemple de Moïse qui va les sortir. C'est Moïse, il voulait pas. Comme Gédéon, on va voir.
Quand Dieu dit, quand il envoie un prophète, on ne sait pas c'est qui le prophète, mais ça montre que Dieu peut parler à travers n'importe qui pour vous révéler.
Amen. 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 Oui. Et il lui a manifesté sa volonté en interdisant toute association. Toute association. C'est ce que je veux. Je ne veux pas que vous vous associez à cette. C'était clair, clair pour eux. Et Israël n'a point écouté ma voix jusqu'au verset. Je pense verset 8-9 qu'on a lu. OK. Maintenant, dans le verset 11, on voit l'intervention de quelqu'un, Dieu qui envoie son ange, un prophète, un ange.
Un ange.
OK. Plus voir plus tard, on ne pourra pas se tromper que de dire que c'est l'Éternel lui-même. Parce que le texte va nous dire l'Éternel dit. Okay. Mais dans ce verset-là, il parle d'un ange, alors qu'il se tient sous ce genre de chaîne térébinthe. C'est ça, c'est un ange. Je ne pense pas qu'on ait ce table-là ici en Amérique du Nord, mais l'image que j'ai de ce table-là quand je fais les lectures, c'est le chêne. Il y a des chênes ici? Ouais, vous avez vu des chênes? Un grand arbre avec des. Étalé, on peut se reposer. Je me rappelle chez nous, on peut aller. Quand il fait chaud hein, dans l'ombre, on va s'asseoir sur les racines, les grosses racines, et puis on va réfléchir. Puis faire des rêves, etc. Et penser à notre avenir. Prier aussi. Oui, parce que ça nous donne cette tranquillité-là, cette paix-là sous l'arbre. Hein. Alors, fait que Gédéon semble-t-il qu'il était dans la même situation, vu l'oppression de l'ennemi. Il pouvait se retirer sur le terrain.
Juste une remarque concernant le chêne, là, supposément que c'est même en allant qu'on le couperait, il y a toujours la vie dans le chêne. Supposément, dans ses racines, tout ça, c'est un arbre particulier pour retrouver. Il se renouvelle, il se régénère d'une façon particulière.
Okay. Ouais.
On les a mis à pousser. C'est très, très solide.
Très solide. S'il y en a en France. La fontaine, on a parlé dans ces fables.
Les forêts. Ça, c'est très long à pousser, mais les chênes, ils peuvent être. Ça peut prendre 200 ans à pousser. Là. C'est très, très long. Et c'est solide.
C'est fort, c'est solide. Le bois. C'est du sel.
C'est très lourd, c'est solide.
Oui.
Victor Hugo a écrit justement le chêne et le roseau. Que je connais par cœur.
C'est pas Fontaine ou Victor?
La Fontaine.
OK, c'est bon. La petite école, il fallait l'apprendre, celle-là. La petite école.
Mais ce qui prouve une chose, c'est que même s'il est le plus fort et le plus solide, il peut tomber.
Le roseau, il plie, ne rompt pas. Il plie, ne rompt pas. C'est vrai. C'est vrai.
Les chars. Oui. Mais c'est l'Éternel. Les chars. C'est l'Éternel qui amène la pluie pour que les chars s'engourdent. Les chars sont plus forts.
Oui, ils sont jamais là. La puissance de notre Dieu.
Quand je pense quand même à Moïse, si on parle de Moïse, le peuple était prêt à retourner.
Ah oui. L'incrédulité, malgré ce. Oui. C'est pas une chose facile. C'était pas une chose facile pour Moïse comme conducteur. Là. C'est tout un défi.
Il y en a eu des
ah oui, oui, oui. Mais on voit son cœur aussi. Il s'est mis tout le temps comme le prêtre pour interpréter contre le jugement de l'Éternel. Tout demander pardon pour le peuple, etc. Pour que Dieu ne fasse pas déverser sa colère sur le peuple qui est rebelle. Il se met entre Dieu et le peuple. Un bon berger.
Quand la parole dit, rien n'est impossible à Dieu. Puis quand Jésus a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit, si tu crois que tu verras la gloire de Dieu, c'est ta mort. Oui. Dieu a attendu pour dire, il est vraiment mort, oui. Pourri, mais rien n'est impossible à Dieu.
Vous démontrez sa puissance.
Oui.
Ouais. Et la résurrection et la vie. Alors, le dialogue se poursuit entre le visiteur avec Gédéon Gédéon, lui, il continue son petit travail, là. Il était sous le térébinthe. Le texte nous dit qu'il était en train de presser du blé. Hein? Il était pressé du blé. Oui. Sous l'arbre, c'est ça, sous le térébinthe?
Non, c'est l'arbre. Le froment au pressoir. Le pressoir, c'est pour le vin. C'est pour le raisin.
Oui.
Il se cachait.
Ouais. Oui, pour cacher, oui, pour faire ça, pour protéger, pour le mettre à l'abri, ce qu'il avait, à l'abri, de le blé à l'abri des Madianites. Des Madianites, oui. Des Madianites. Okay. C'était leur seul suivi. S'il a réussi à amasser un peu de blé, mais il faut le garder précieusement, là. Il ne faut pas le laisser à la vue des Madianites qui vont tout ravager, là. Ouais. Mais l'ange lui dit, « Hey, mon vaillant héros! » Ben lui, il sait pas, lui là. Il sait pas, il se prend pas pour héros. On va le voir dans le texte. Il dit, tu sais ça, c'est ça, exactement. Un héros, moi. Ben tous les hommes de Dieu. C'est ça qu'il va chercher. Afin que personne ne se glorifie. C'est ça. C'est comme ça qu'il marche.
C'est la même chose avec le peuple d'Israël. Je ne t'ai pas choisi parce que tu es un bon.
Voilà.
Parce que tu es un bon. Je suis content que tu fasses ça. Parce que ça nous montre la grâce de Dieu, la puissance de Dieu.
Amen.
Parce que nous autres aussi, on est
pareil. On est pareil. Alors, il dit un vaillant héros à cause de ce que le Dieu va faire de lui, n'est-ce pas? Mais lui, il ne peut pas comprendre. Là. Moi, je suis en train de travailler mon petit froment et le blé pour le mettre à l'abri des Madianites. Mais toi, tu m'appelles comme étant un vaillant héros.
Ouais.
Il pense que c'est une forme d'ironie. Là. On disait, là, hey, pourquoi tu m'appelles comme ça? Hein? Je n'ai pas la force. Ben, c'est une prophétie de l'ange. Parce qu'il sait ce que Dieu va accomplir avec lui. Mais lui, Gédéon, il n'est pas rendu là. Dieu va se servir de lui pour faire de grandes choses. On va le voir dans la semaine prochaine, les autres choses qu'il va accomplir, Gédéon, pour le peuple d'Israël. En réponse, qu'est-ce que Gédéon fait? Gédéon répand son cœur, mais se fera en accusant l'Éternel. Il dit, hey, vous dites que l'Éternel nous a délivrés, là, de toutes les Israélites, etc. Où est-ce qu'il est aujourd'hui, là? Pourquoi toutes ces choses-là nous arrivent? C'est les paroles de Gédéon. Tu me parles de héros, de l'Éternel a fait ci, a fait là. Nous, regarde, nous, là, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes en train d'être écrasés par les Madianites, par les Amalécites. Où est Dieu? On se pose des questions comme ça, hein, souvent. Où est Dieu? Oui, oui. C'est ça. C'est le raisonnement humain. Il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi nous arrive-t-il toutes ces choses-là? On peut le comprendre, le Gédéon, lui-là. On peut le comprendre.
Découragement.
C'est ton peuple pendant sept ans. Puis c'est des ennemis acharnés. On ne peut pas se battre. Ah, la semaine passée, on voyait que dans le cas de la bataille contre Sisera, là, jamais. Ils n'avaient pas de bouclier, ils n'avaient rien. On avait vu la semaine passée, ils n'avaient aucune arme. Ils étaient sous-équipés comme armée. Mais maintenant, une autre armée, deux, se mettent contre eux maintenant, 7 ans plus tard, 47 ans plus tard. Parce qu'il y avait 40 ans de paix, et là, ça a commencé 7 ans. Ouf! L'armée, je ne pense pas, l'armée a pu aller chercher des munitions, là. Fait que c'est dans cette situation-là qu'ils se trouvent. Ils ne sont pas de force. Je pense que Dodo, tu voulais ajouter quelque chose?
Je pense que Gédéon, il suivait le Seigneur. Et il ne voyait pas autour de lui tout ce qui se passait à l'extérieur, peut-être. Mais je pense que si Dieu l'a choisi, c'est parce qu'il suivait. Il était, lui, fidèle.
OK. Est-ce que Paul peut dire ça?
Non.
Et grâce, on va dire ça comme ça. On va dire grâce. Et dans toutes nos vies, c'est grâce aussi. C'est grâce. C'est la grâce. C'est la grâce.
Dans Deutéronome, il dit le peuple de Dieu, dans son découragement, le paralyse.
Mm-hmm.
à croire en Dieu et à marcher en lui parce qu'ils abandonnent Dieu et ils se trouvent dans le découragement. Ben oui, ben oui. Ils sont paralysés à se tourner vers Dieu.
Oui. Je pense que le problème qu'on a, c'est on veut marcher par la vue. Ouais. C'est nous. On veut voir des miracles, hein, physiquement. On veut voir ce Dieu-là devant nous pour qu'il puisse l'adorer. Alors Dieu dit non, 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 je suis invisible. Moi, je suis avec vous, je suis là. Vous ne me voyez pas, mais je suis là. Puis mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir. Mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir que je suis là. Okay? Mais Gédéon se trompe. C'est parce que le peuple a abandonné l'Éternel que toutes ces choses-là lui sont arrivées. C'est l'inverse. Ils pensaient que Dieu l'a abandonné, c'est parce qu'ils vivent tout ça. C'est le peuple qui a abandonné, pas l'Éternel. En fait, Dieu lui parle. Dieu lui parle, il est à côté de lui. Là. Il ne l'a pas abandonné, c'est le peuple qui a abandonné. Et c'est la conséquence qu'on a dit. Cause-effet. Cause-effet, c'est automatiquement, c'est la relation. Oui. Gédéon commence à énumérer ses faiblesses. On le voit dans le texte. Nous vivons dans la peur et nous devons nous cacher. Le texte nous dit clairement, ils sont allés se cacher là, dans les montagnes, parce qu'ils ont peur. Comment est-ce que tu peux m'appeler un héros comme ça? Notre tribu n'a rien de remarquable. Ma famille est insignifiante. Je suis le plus petit de tous. Tu t'es trompé, car tu as choisi le plus petit de la place. Pas le héros. Pas le héros. Le plus nul de la place. Ce sont les hommes-là. Dieu ne le reprend pas. Parce qu'il est faible, vraiment. Nous sommes faibles. S'il a la force, c'est Dieu qui nous communique cette force-là. Dieu ne le reprend pas. Mais il lui montre comment un faible homme peut vaincre toute une armée. Et nous allons voir dans les miracles qu'il demande plus tard, avec le tison, là. OK? L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas les compétences militaires, tu es faible, tu n'as aucune tactique de guerre. Non, je n'ai pas besoin de ça, moi, je n'ai pas besoin de ça. Hey, mon ami, je ne veux pas empiéter sur la semaine prochaine, mais. Je pense qu'ils ont choisi une vingtaine de mille de personnes. Le Dieu dit non, c'est trop. Il va finalement s'en aller avec 300. Et puis, deux là encore, même 300, va être divisé en trois. Donc, vous allez le voir la semaine prochaine. Dieu va faire en sorte que Gédéon ait confiance en lui. Il va avoir la confiance. Dieu va le préparer pour l'œuvre. Dieu va faire de lui ce héros, ce vaillant héros.
C'est
mais.
Je serai avec toi.
Ouais.
Et tu
emmènes-toi,
lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de
la
mort,
tu es là. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples dans Matthieu 28?
Tous les jours avec vous jusqu'à la fin de la mort.
Okay. Puis c'est, je me dis tout le temps, comment est-ce que les témoins de Jéhovah peuvent ne pas voir un Dieu dans Jésus-Christ? Ils vont dire, il n'a jamais dit qu'il était Dieu, etc. Mais juste pour moi, le texte, ce texte-là, je suis avec vous.
Tu as vu le Père.
Automatique.
Le Père est en moi. Moi
je suis. Non, là, ils vont contourner. Là. Ils n'ont jamais dit. Ils vont dire ça. C'est que je me perds plus de temps avec eux parce que c'est impossible.
C'est ça. Ils ont falsifié la traduction originale. C'est ça.
J'ai leur Bible. Même avec leur Bible, tu vois, c'est évident. Même dans leur traduction, dans leur Bible, tu vois, c'est évident. Il y a des textes qui ne peuvent pas changer. Je suis avec toi. Un commencement. Mais c'est ça. Sans borner, quand tu ne veux pas voir, ben, tu ne verras vraiment pas. Aveuglé, c'est ça. Aveuglé. Et malheureusement, ça va causer leur ruine. Non. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. L'Éternel le dit. Je suis. Et le seul est capable de dire je serai, je suis avec vous, parce qu'il n'y a pas de commencement, pas de fin. Ça confirme qu'il est Dieu, c'est le Dieu. Et Gédéon va finalement réaliser que c'est vraiment l'Éternel qui est avec moi, là. On va le voir plus tard. Dieu n'a pas envoyé Gédéon seul au combat. Il l'envoie, il dit, vas-y, mais je suis avec toi. Dieu sera avec lui et la victoire sera beaucoup plus. En fait, c'est garanti. La victoire, c'est garanti avec Dieu à ses côtés. Okay? C'est garanti. Comme Moïse en son temps, vous vous rappelez de Moïse? Quand Moïse a son temps, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des excuses. Seigneur, je ne peux pas parler. Comment est-ce que je suis bégayé? Je bégaye en parlant. L'Éternel dit, ah ouais? Ben ton frère va parler pour toi.
Il y a un prédicateur ou quelqu'un qui avait dit, moi plus Dieu égale la majorité. Ouais. Fait que je parlais n'importe qui.
Oui.
Qui voudrait lutter contre nous. Si on a Dieu, on a tout.
Puis on a tout, de tout repos. La paix qu'on parlait tantôt, là, parce que Dieu est avec nous. Cette paix-là, on sait bien, on a la victoire. On va avoir la victoire. C'est Dieu qui l'accompagne, c'est Dieu qui se trouve à ses côtés. Mais Moïse, en son temps, il cherche des excuses pour ne pas se trouver en guerre contre ses ennemis, qui sont beaucoup plus forts que lui. On peut se demander pourquoi l'Éternel a choisi Moïse ou Gédéon qui n'avait pas les compétences d'un guerrier et qui n'avait surtout pas l'envie de se battre. Pourquoi il les a... Le gars est tout seul, son stéréotype, il est en train de penser à je ne sais pas quoi, là. L'Éternel est apparu. Ah oui, mon homme, tu vas travailler. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi choisir celui-ci? On a dit, grâce. Il y en avait plein d'autres. Grâce, grâce.
Pourquoi Dieu nous a choisi?
Grâce, 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 grâce. Grâce, 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 la grâce. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul fait état d'un grand principe divin. Dieu ne choisit pas en fonction des critères humains. Il est Dieu, il a les critères divins. Mais nous, on est limité, on est limité, on va voir ce qui touche à l'œil, etc. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'a que faire de ceux qui se croient forts ou talentueux. Parce qu'on est orgueilleux. On va dire, ouais, c'est parce que je suis fort. Non, non, c'est comme ça. Il y a un texte, ce texte de l'enfant du Nouveau Testament, qu'on voit dans 1 Corinthiens 1. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes.
Et Dieu... David, il était quoi? Il était dans le champ avec
Jérôme,
qui on cherchait quelqu'un de
vrai. Ouais, critère humain encore. Critère humain. On veut un roi, là, c'est pas un petit. Non, on veut quelqu'un de géant, élancé, tout ça. Là. Oui, oui.
C'est ça.
C'est ça? Le cœur, il avait le cœur selon Dieu. Oui, c'est ça. Et. Dieu ne choisit pas, Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont et que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Voilà son plan. Et Paul le réalise, c'est son histoire à lui. C'est son histoire à lui, l'apôtre Paul. Il le dit aux Corinthiens. Dans, dans les versets 17 à 24, oh, 18-10. Avant de s'engager, Gédéon veut s'assurer que, premièrement, ses péchés sont effacés, sont pardonnés. Déjà, il avait une conscience du péché, une compréhension du péché dans son temps, Gédéon. Dieu nous met en nous cette conscience-là. Et que le visiteur est vraiment, il veut s'assurer que le gars qui parle est vraiment de Dieu. Il demande un signe. Il ne précise pas. Tout ce qu'il veut, c'est un signe. Et dans l'attente du signe, il veut offrir un sacrifice. Malgré la situation économique du pays, hein, il va chercher un chevreau va chercher la farine pour faire un gâteau, disons, là, pour offrir une offrande. Parlons de sacrifice, ça, c'est vraiment un sacrifice qu'il va offrir à l'Éternel. Si on veut faire un don de reconnaissance et d'adoration pour le pardon reçu, est-ce qu'on est reconnaissant pour le pardon? De temps en temps, on dit, Seigneur, merci pour le pardon. J'ai péché encore, mais tu me pardonnes, j'ai aucun doute que tu me pardonnes, c'est ta promesse. Merci Seigneur.
On était dans une situation où la famine, puis il offre un sacrifice, là, tu sais, il doit volontairement.
C'est ça. Ça suffit, là.
Il a donné, pas du surplus.
Non, du stick minimum qu'il avait, là. Ouais. C'est ça. Et c'est ça. L'ange accepte l'offrande, mais il ne va pas le consommer. Il va s'en servir pour tester sa foi. L'offrande. Parce que lui, il demande un signe, il ne dit pas ce qu'il attend. Je veux un signe. Là, c'est Dieu lui-même qui va lui suggérer quelque chose avec l'offrande qu'il a offert au Seigneur. N'est-ce pas? Oh, obéissance, oui. Eh bien, le texte nous dit. Il obéit, il suivit, je pense que le texte dit, verset 6, il dit, il fit ainsi dans le verset 20, l'ange lui dit, de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi, il obéit, voilà. Pourquoi tu me dis ça, je t'apporte une nourriture, pourquoi tu te gaspilles? C'est la version humaine, non, Dieu l'a dit. Même si ça ne fait pas de sens pour moi, j'obéis. Gédéon obéit sans hésitation à l'ordre de l'ange et un feu miraculeux du rocher, là, un feu s'éleva et consuma l'offrande. Vous vous rappelez, Élie? Qui s'en souvient? Qui s'en souvient, Élie? Le feu miraculeux lui a procuré l'assurance qu'il s'est vraiment entretenu avec Dieu. Ouais, ça, c'est Dieu. Dieu seul peut faire ça. Dieu seul peut faire ça. Il connaît Dieu. C'est la réponse qu'il voulait. Savoir qu'il a trouvé la faveur de Dieu, car celui-ci, Dieu, a accepté son sacrifice de reconnaissance. C'est la confirmation que c'était bel et bien, il s'était bien retrouvé dans la présence de Dieu. Vraiment. C'est Dieu qui me parle. Il va réagir par rapport à cette connaissance-là. Parce que c'est un Israélite. Et il connaît le Pentateuque, n'est-ce pas? Tu vois, il va réagir. Ce récit rappelle deux autres. Ce récit, celui-ci, celui de l'ange de l'Éternel, Abraham, dans Genèse 18, quand il l'a visité, ta femme va devenir enfant dans le mois ou bien l'année prochaine, je ne me souviens pas, là. Et puis il va sortir, il va faire un sacrifice, il va aller chercher les agneaux, etc. Il va faire un sacrifice. C'était l'ange de l'Éternel aussi. Et Moïse aussi, dans le buisson, ardent, c'était la même chose qu'on voit avec Moïse. Dans le verset 22-23, au moment où Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel, il s'écria, « Malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Il a compris quelque chose. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Merci Jésus-Christ d'avoir pris la forme d'un homme, d'un humain. Merci. Tout ça, c'est dans le plan divin. Quand tu lis ça, tu ne comprends pas, mais quand tu examines vraiment là, en profondeur, il a fallu ça. C'est dans le plan divin que Jésus-Christ prenne une forme d'homme. Et tout ça en conformité avec l'enseignement de la parole. Sinon, on serait tous morts. Si quelqu'un croit en Dieu, on sera mort. Mort dans nos péchés, en fait. Il comprend. Il dit, l'Éternel lui dit, il comprend ça. Je sais que quand je l'ai dit, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Il dit, mais sois sans crainte, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ça le rassure, je pense. Ben, c'est ça. C'est la question que je posais quand on là, parce que Dieu le dit dans sa parole qu'on ne peut pas voir et vivre. On peut se souvenir de nous. L'histoire du mont Sinaï que Moïse a rencontré, etc. On connaît l'histoire. La gloire de l'Éternel, etc. En tout cas, En récompense, en reconnaissance, Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna le nom. L'Éternel assure la paix. N'est-ce pas? Il comprend que c'est l'Éternel. Il était face à l'Éternel et l'Éternel le rassure. Sois en paix, mon homme. N'aie pas peur. Tu ne mourras pas. Tu as ce privilège de me voir en personne et tu ne mourras pas. Et c'est ce qui va arriver un jour. On va le voir face à face. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. On va être avec lui pour l'éternité. C'est sa promesse. Le texte nous dit que cet hôtel existe encore aujourd'hui à Ophra, dans le village de la famille d'Abiézer, sa famille. On pourrait conclure par beaucoup de choses, mais j'ai choisi quelques points pour conclure. La parole de Dieu ne reste pas sans effet quand on obéit. C'est garanti. Si on obéit sa parole, Dieu va accomplir. Alors que toutes les questions de Gédéon n'avaient pas réussi à dissiper entièrement ses doutes, son obéissance lui a ouvert la voie de la connaissance profonde de Dieu. Il a connu Dieu. Ah oui, je suis en présence de Dieu. Là. C'est l'ange de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même là, qui me voit. Son obéissance a produit tout cela. Par ce signe, Dieu marque à Gédéon sa présence. Je suis là. Sa puissance. Et aussi sa sainteté. Il accepte son offrande. Gédéon réalise vite qu'il est en présence de Dieu et craint pour sa vie, car aucun pécheur ne peut voir Dieu face à face et vivre. C'est ce qui est rapporté dans Exode 20. Mais Dieu le rassure, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Verset 23.
Donc, il devait s'assurer d'une certaine façon que est-ce que c'est vraiment l'ange
oui. De l'Éternel. Oui, oui,
oui. Paul, lorsqu'il était prêché à Béré, puis c'est écrit que les gens de Béré avaient un esprit plus noble qu'il allait voir dans les Écritures pour voir si c'était vrai
ce qu'il disait.
Il fallait qu'il s'assure que c'est vrai. On ne peut pas avoir par quelqu'un qui se prend pour l'ange.
Oui.
Dieu, c'est cette réaction-là tellement. C'est le cas qu'il a réalisé.
Okay. Ouais, confirmé. De nos jours, il y a plein de prophètes qui vont venir nous dire de faire les prophéties sur nos vies. Faisons attention. Confirmons par la parole. Et je pense que ça termine notre cours de ce matin.